Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. Bienvenue sur le podcast des actus de Mashup. Alors, chaque mercredi à 20h dans mon émission Mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités, dont vous pouvez retrouver les informations en description. Bref, si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch, eh bien, pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission, à savoir ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, et eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute. L'élection présidentielle, c'était donc il y a quelques jours. Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat avec 58,54% des voix contre Marine Le Pen, qui en a donc récolté près de 41%. Mais depuis dimanche soir, on parle d'une victoire qu'à moitié, disons, pour Emmanuel Macron, avec de l'autre côté une forte poussée de l'extrême droite. L'écart, vous l'avez très sûrement vu, s'est réduit entre les deux candidats par rapport à 2017. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a gagné des voix par rapport à 2017, là où Emmanuel Macron en a perdu lui depuis 2017. Par ailleurs, beaucoup ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen et il y a eu aussi une abstention assez massive qui a atteint des records. Bref, le pays, d'une certaine façon, au moins de ce point de vue-là, est en crise. Et donc, pour en parler et mieux comprendre l'un des problèmes, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs et les solutions aussi potentielles, je suis avec Anne Rosenchère. Bonjour.
Bonjour.
Merci déjà d'être là.
Mais merci de m'inviter.
Première fois sur Twitch.
Première fois.
Ça fait plaisir. Donc, pour la présentation, je l'ai fait il y a quelques instants. Tu travailles chez L'Express en tant que directrice déléguée.
Oui.
Tu as écrit un article qu'on va afficher, je pense, à l'écran dans quelques instants, qui revient justement sur ce sujet-là. Et tu es aussi auteur de ce livre-là, Un chagrin français, qu'on peut retrouver, du coup, j'imagine,
dans
un peu partout, librairie,
voilà, en ligne, etc.
N'hésitez pas, du coup, à découvrir ça, Un chagrin français, si jamais ça vous intéresse. On peut te suivre, par ailleurs, je le lis maintenant sur Twitter, si on veut en savoir plus sur ce que tu publies, etc. Je le disais, tu as rédigé cet article dans L'Express lundi, au lendemain donc, de l'élection, où dans le titre d'ailleurs, on lit notamment un message à la France qui gagne. Mm-hmm. C'est quoi selon toi la France qui gagne que tu évoques ici ?
La France qui gagne, je dirais, elle gagne et dans les urnes et un peu aussi dans la vie. C'est-à-dire c'est une France, et je schématise bien entendu parce que quand on regarde de plus près, il y a toujours des nuances, ouais, mais c'est une France qui globalement depuis, on va dire 30 ans, depuis que le monde s'est mondialisé, justement, que l'économie s'est mondialisée, a plutôt bénéficié de cette mondialisation, le fait que la richesse s'est concentrée dans les villes, où on voit beaucoup l'économie de services qui est florissante, pendant que l'industrie dans la France, qu'on appelle la France périphérique, vous savez, qui est un peu plus à la périphérie des villes, en province, etc., elle périclitait. Il y a une France qui a continué de très bien se porter, qui se concentre pas mal dans les métropoles, et on le voit tout à fait dans le vote d'Emmanuel Macron, et qui gagne, qui se projette, je dirais, bien dans l'avenir, qui arrive à s'en sortir malgré une école et des études qui s'affaissent un peu, etc. Et donc, mais qui malgré tout, grâce un petit peu au fait qu'elle est initiée, qu'elle arrive à savoir quelles études à faire à leurs enfants, etc., arrive à se projeter elle et même ses enfants positivement dans l'avenir.
Est-ce que ça veut dire, du coup, quand on voit d'ailleurs les sondages qui sont sortis ces derniers jours, qu'on a affaire à une sorte de vote de classe et que, eh bien, on a clairement des classes sociales qui ont voté pour Marine Le Pen et d'autres pour Emmanuel Macron ?
Absolument. Et d'ailleurs, ça se voit. Vous recevez tout à l'heure quelqu'un qui travaille chez Ipsos, et dans les chiffres de l'Ipsos, vous voyez que 77% des cadres ont voté pour Emmanuel Macron et 67% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Ce qui veut bien sûr dire que vous avez aussi des ouvriers qui ont voté pour Macron et des cadres qui ont voté pour Marine Le Pen. On ne peut jamais faire des choses complètement caricaturales.
Ouais,
mais vous voyez quand même qu'à ce niveau-là de croisement des courbes, on est quand même sur quelque chose qui est triste. Parce qu'en vérité, avant, quand vous aviez la gauche contre la droite, vous aviez à peu près le même nombre d'ouvriers et de cadres qui votaient pour les uns, d'ouvriers et de cadres qui votaient pour les autres. Et donc, vous aviez le sentiment que vous ne votiez pas en fonction d'un intérêt de classe. Ça, je pense que ça entraînait des clivages politiques dans la société, mais ils étaient moins graves. Ils étaient moins dans la détestation, ils étaient moins dans la rancœur que quand vous avez l'impression que vous luttez avec vos intérêts de classe.
Et on le voit ici, du coup, avec justement voilà. Mathieu Gallard, qui sera avec nous dans pas longtemps sur le prochain sujet, qui a partagé donc, là, une étude d'Ipsos. On voit que oui, voilà. Comme tu le dis, chez les ouvriers, ça a énormément voté pour Marine Le Pen, et inversement, chez notamment les cadres, ça a énormément voté pour Emmanuel Macron. Et ça tient à quoi, selon toi, ce clivage-là ? Est-ce que ça tient aux mesures qui ont été portées par les candidats ? Est-ce que ça tient à d'autres choses aussi ? Comment est-ce qu'on explique aussi ce décalage-là ?
Je pense qu'en fait, il ne faut pas regarder juste, ne serait-ce que pendant la campagne, ou même il y a 5 ans, c'est des choses qui mettent énormément de temps à s'installer. Je parlais de la mondialisation au début, quand il y a eu la mondialisation. Bah d'abord, c'est un cadre qui s'est un petit peu imposé. C'était un cadre naturel qui s'est imposé à tout le monde, et tout le monde jouait le jeu. Mais bien entendu, quand vous avez de la concurrence, par exemple, entre les différents pays, parce que vous n'avez plus de frontières douanières, etc., eh bien, les pays qui peuvent produire à moindre coût, comme la Chine ou comme les pays en Asie ou que sais-je, sont avantagés par rapport aux sociétés occidentales. Vous avez de la sécurité sociale, vous avez des salaires, un salaire minimum et tout ça. Ce qui veut dire que vous avez tout un pan de l'économie avant qui fournissait de l'emploi, c'est-à-dire du statut, même si parfois c'était difficile. Je n'idéalise pas le métier d'ouvrier d'avant, mais qui fournissait, je dirais, un écosystème dans une certaine France qui a disparu. Et c'est de ça, c'est ce vide-là, si vous voulez, qui a beaucoup reconfiguré la France. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, au début, c'était la gauche qui était censée porter ce diagnostic. Mais la gauche a semblé finalement gérer les choses, la marche du monde, comme s'il n'y en avait pas d'autre possible. De la même façon ou presque la droite. C'était une espèce de pilotage technique au centre. Et les gens, il y a certaines personnes qui ne sont plus d'accord avec ça.
Et sur la question du coup de l'impact sur la démocratie et de cette démocratie potentiellement en crise, ce qu'on voit du coup de fait, c'est que un certain nombre d'ouvriers qui sont parfois ou ex-ouvriers qui sont parfois dans une situation difficile se retrouvent à voter, que ce soit d'ailleurs là pour Marine Le Pen ou d'autres candidats, et à ne pas réussir à faire entendre leur voix. C'est une question plus large qu'on peut poser sur le fonctionnement aussi du système démocratique et de cette élection présidentielle. Quel constat est-ce que tu poses là-dessus ?
Je pense qu'on est passé d'une crise à une autre crise. On est toujours en démocratie. Il faut faire attention quand même aux discours qui disent en fait on est dans une dictature, le pouvoir est illégitime. Non, il y a quand même encore un vote. Il y a des gens, même si l'abstention est élevée, qui vont voter en nombre. Mais on est passé de ce que les gens considéraient comme un choix insatisfaisant, qui était en effet une gauche et une droite qui semblaient être vraiment en désaccord au moment des campagnes, au moment des élections, et puis qui, une fois au pouvoir, gérer un peu de la même façon.
Donc c'est pour ceux qui n'ont pas forcément souvenir de ça, parce qu'au final, ça remonte à 2012, au final, mais
quand
c'est
l'UPS
et l'UMP, et l'UMP, l'UMP et les Républicains,
voilà, exactement,
qui, avec Hollande, Sarkozy, etc.
Exactement. Et qui, au fur et à mesure, se sont un peu rapprochés comme ça, et les Français les ont envoyés valdinguer. Un de leurs éléments pour envoyer valdinguer ça, c'était Emmanuel Macron en 2017. Et c'était censé résoudre ce problème de faux choix, on va dire. Sauf qu'il s'est installé un autre faux choix. Enfin, c'est pas un faux choix, il y a toujours le choix, mais un choix insatisfaisant, dans le sens où vous avez l'impression qu'il y a un candidat crédible, officiel, raisonnable, pour qui on peut voter, et puis après, vous avez des radicaux, des extrêmes, qui sont soit disqualifiés, et on pourra y revenir, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, soit trop radicaux, soit parfois incompétents, ou un problème de crédibilité. Donc, il y a un autre choix insatisfaisant qui se met à la place. Et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de colère. Normalement, une démocratie saine est censée prendre en compte, dans une opposition démocratique légitime, sans qu'on ait ces propos « vous n'avez pas le droit de voter pour un tel, ce serait une honte ». Normalement, vous devez pouvoir trouver dans le spectre des candidats à une présidentielle des gens qui représentent des options vraiment différentes. Aujourd'hui, c'est en gros soit Macron, soit les extrêmes ou les radicaux. Ça n'est pas satisfaisant non plus.
Et si on pose la question un peu directement, est-ce que c'est le système même de la Ve République tel qu'il est aujourd'hui, avec un président qui est élu tous les 5 ans, qui a des pouvoirs quand même massifs lors de ses, dans le pays, est-ce que ce système-là, au final, n'est pas du coup à bout de souffle? On a vu que dans la présidentielle, un certain nombre de candidats, Jean-Luc Mélenchon notamment, lui le porte depuis longtemps, voulait passer à une 6e République avec moins de pouvoir sur le président de la République, etc. Est-ce que c'est des solutions que tu envisages de ton côté?
Alors moi, je pense que le débat, on appelle ça le débat institutionnel, c'est-à-dire qui porte sur quel mode de scrutin, quels sont les pouvoirs de l'Assemblée, du Premier ministre, etc. C'est toujours intéressant, mais je ne crois pas au miracle de la réforme institutionnelle, comme on l'appelle. Je pense qu'avant tout, la révolution à faire, elle est dans nos têtes à tous. Je suis assez marquée en France à quel point parfois les gens, les élites, comme on dit, que ce soit les élites au pouvoir ou les élites médiatiques ou les élites de l'entreprise ou que sais-je, ou culturelles même, sont enfermées un petit peu dans cette idée qu'ils sont plus raisonnables, plus intelligents et même qu'ils pensent mieux que les autres. Et donc, ils n'arrivent pas à faire l'effort de penser contre eux-mêmes parfois, contre ce qu'ils pensent être l'intérêt, leur propre intérêt, mais aussi l'intérêt du pays, et se dire peut-être que les gens qui apportent un autre diagnostic, même si on n'est pas d'accord avec l'ensemble de ce qu'ils disent, ils méritent d'être écoutés. Mmh. Ils ne sont pas tous crétins ou tous fachos, pour reprendre un petit peu la façon dont parfois le débat est caricaturé. Quand vous avez 42...
Il y a une forme de disqualification.
Oui, vraiment, il y a une forme de disqualification. Alors parfois, je peux bien entendu comprendre que quand on enquête, etc., on essaye d'informer les gens sur les dangers de telle ou telle chose, mais vous ne pouvez pas mettre dans le même panier 42% des gens qui ont voté, enfin des votants qui ont voté pour Marine Le Pen, comme si, encore une fois, c'était soit des débiles qui ne comprenaient pas quel est leur propre intérêt, soit des fachos ou des racistes. Mmh. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez éventuellement penser à ça quand c'est à 8 ou 10%, mais pas quand c'est à 42%. C'est que vous avez un problème dans votre façon de considérer les autres citoyens.
Et donc, ça pose une question forcément majeure sur l'organisation de ces élections et la façon dont le débat politique est pensé. Et là-dessus, si on est dans la situation actuelle, quelle responsabilité, selon toi, porte Emmanuel Macron dans ça? C'est-à-dire qu'on l'a dit, on est passé d'un système où pendant longtemps, on avait la gauche, la droite, deux partis de gouvernement, comme ils étaient appelés,
exactement,
qui alternaient plus ou moins lors des élections, à quelque chose où on a maintenant trois blocs, d'une certaine façon.
Oui.
C'est ce qui est souvent décrit. Mm-hmm. Quelle responsabilité pour toi porte Emmanuel Macron? De fait, il arrive au pouvoir et a déstabilisé les Républicains et le PS, mais est-ce que ça va au-delà de ça selon toi?
Je pense que Emmanuel Macron a joué tactiquement le fait que ce soit lui ou le chaos. C'était quelque chose qui lui permettait tactiquement d'être plus facilement réélu que s'il était face à un adversaire plus traditionnel ou plus crédible. Donc lui, en effet, il a passé son quinquennat à alternativement faire attention à ce que la gauche ne renaisse pas de ses cendres et à ce que la droite traditionnelle continue de bien s'étriller et s'affaiblir. Après, une fois qu'on a dit ça, il est vraiment ni le seul, ni le premier responsable. Les premiers responsables, en vérité, c'est l'ancien PS et l'ancien UMP devenu LR, qui n'ont pas assez travaillé, qui n'ont pas fait l'effort dont on parlait tout à l'heure, de se dire, attendez, si on écoutait une partie de notre électorat qui s'en va de plus en plus vers le Front National à l'époque, vers les extrêmes, etc., qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils n'ont pas fait ce travail. Or, c'est ça, la politique. C'est se dire, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça c'est la vie. Je veux dire, on ne peut pas considérer que, en fait, si on expliquait mieux, tout le monde serait tout à fait d'accord. Ce n'est pas vrai. On a des intérêts contradictoires qu'on doit réussir à faire converger dans une société.
Mais est-ce que c'est pas idéaliste et trop optimiste? Si je suis un peu dur là-dessus, on pourrait dire en même temps, le président de la République, il n'a pas intérêt à aller légitimer ses adversaires. Les adversaires n'ont pas intérêt à aller légitimer le président de la République. Est-ce que le risque, c'est pas que dans le système, encore une fois, tel qu'il est, mais c'est peut-être le cas dans beaucoup de pays du monde, l'opposition en soi n'aurait pas intérêt à aller souligner les points positifs menés par telle ou telle politique ou à aller sur une dimension comme ça constructive, disons, dans le...
Si, c'est vrai qu'il y a une partie, et encore plus, je trouve, maintenant, avec toute la dimension de communication qu'a pris la politique, il y a une partie de théâtre, de mise en scène de l'affrontement. Mais on voit bien comme ça abîme quand même le pays. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il faut mettre fin au clivage et se donner des bons points en permanence. Au contraire, plus vous mettez fin au clivage, plus vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'alternative et que donc c'est la fin de la politique et que donc... Votre seule façon de changer les choses, c'est la radicalité. Que ce soit la radicalité dans la rue, la violence, ou la radicalité de candidats extrêmes. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut sortir de cette idée qui est particulièrement vraie en France, quand vous regardez, c'est pas tout à fait le cas, ni en Angleterre, par exemple, ni aux États-Unis, qu'il n'y a qu'une seule façon de faire et que, voilà, après, on va juste faire des petits ajustements, l'âge de la retraite, le point d'indice des fonctionnaires, mais globalement, on va dans une même... Il faut refaire émerger des options vraiment différentes. Il faut écouter ce que demandent les gens sur certaines grandes questions, la construction européenne, comment on fait pour protéger justement, par exemple, l'emploi industriel, la concurrence, c'est pas forcément toujours tout. Il faut vraiment... re-réfléchir à ce qu'on pense bon généralement pour tout le monde ou pas.
Alors, en métropole, ça a tendance, et dans les grandes villes, bien ça a sûr. Tendance à plus voter pour Emmanuel Macron. Du côté des plus petites villes, d'un point de vue rural, c'est souvent davantage pour Marine Le Pen que ça a voté. Qu'est-ce que ça dit aussi ? Et je pense que la question se pose en deux temps. Il y a du côté des politiques, mais aussi du côté des médias. Qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que médias aussi, améliorer, essayer de bien faire sûr. Mieux là-dessus ?
En tant que média, je dirais que on a un rôle. Avant, on a.
On va juste. Je l'ai dit juste ici pour ceux qui
Ah bah oui, vous regardez.
En une sorte de violet. En blanc. Ouais. Donc violet, c'est ça a voté pour Emmanuel Macron. En bleu. Bleu plus foncé, là, c'est, ça a voté pour Marine Le Pen.
Et en gros, vous voyez, bon, alors, il y a la Bretagne, mais sinon, c'est surtout au niveau des grandes métropoles à chaque fois. Vous voyez Lyon, vous voyez Paris, vous voyez Bordeaux, vous voyez Toulouse. Et c'est des métropoles entourées après de gens qui ont plutôt, pour le coup, souvent voté Marine Le Pen parce que vous aviez dans ces métropoles un prix de l'immobilier très fort qui fait que ce qu'on appelait avant les classes moyennes ne peuvent plus y vivre parce que les loyers sont trop hauts, parce que le prix du mètre carré est trop haut. Donc, ils sont rejetés, entre guillemets, à la périphérie, d'où l'expression qu'a inventé un géographe de France périphérique. Et en plus, par-dessus ça, quand vous ajoutez le souci légitime, écologique, de mettre moins de voitures dans les villes, vous avez des gens qui sont rejetés en dehors des villes et qui, en plus, ne peuvent plus y aller parce qu'on leur dit votre voiture, elle pue et elle pollue. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose d'une rancœur. Et en effet, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les journalistes, pour répondre à la question notamment du parisianisme, etc. Les journalistes, c'est censé, dans le fonctionnement d'une société, c'est ce qui s'appelle des corps intermédiaires. C'est-à-dire, on est censé faire intercéder entre le citoyen lambda et les puissants. Ça veut dire, c'est comme des ponts, en fait. On est des ponts qui forment une espèce d'architecture de la société. Et si jamais, en effet, on est trop parisianiste, trop dans une même sociologie, dans une même façon de voir les choses, eh ben, on devient des espèces de ponts-levis. Et on ne voit plus qu'une façon. Et c'est là où, parfois, j'imagine que certains de nos concitoyens, quand ils voient des émissions, quand ils écoutent à la radio, ils se sentent plus du tout représentés parce que même des journalistes qui sont censés soit dire juste les faits, soit les représenter dans leur rôle d'éditeur. Moi, je suis éditorialiste, donc je suis censée non pas idéaliser, bien entendu, telle ou telle partie, mais je suis censée faire l'intermédiaire.
Et d'ailleurs, éditorialiste, au passage, je sais que la question revient de temps en temps. Quelle distinction est-ce que tu fais en deux mots sur éditorialiste et journaliste
sûr,
et après, on reparlera.
Bien sûr. La base du journalisme, c'est, on va dire, le reporter. C'est-à-dire, c'est celui qui va voir et qui va rapporter les faits en essayant d'être le plus objectif possible, même si on a tous toujours, c'est complètement... Mais en tout cas, d'être honnête, d'être juste et de ne pas traficoter en fonction de ce que lui, il pense de la politique ou que sais-je. Et après, vous avez les éditorialistes. Normalement, ils sont beaucoup moins nombreux au sein des journaux. Et eux, ils donnent leur opinion. Après, On en pense ce qu'on veut, ouais. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ils donnent leur opinion. Le problème, je trouve, en ce moment, c'est que avec les réseaux, un petit peu quand même, hein, et avec les chaînes d'infos en continu, etc., parfois, eh ben, vous avez des journalistes reporters qu'on interviewe ou qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux, etc., et vous avez l'impression d'une multiplication d'éditorialistes qui disent en plus tous un peu, souvent, pas tous, ouais. Hein, mais pour certains, la même chose. Ou qui, voilà. Et ça, je pense que ça fâche les gens. Et on a vu parfois qu'il y avait une détestation des journalistes. Alors parfois, elle est, moi, je ne légitime jamais la violence, donc parfois, elle est insupportable. Mais je peux comprendre, en revanche, que certains se disent, est-ce qu'ils me représentent vraiment? Est-ce que quand j'entends, j'appartiens à la même société qu'eux?
C'est sur la question des médias qui peut revenir aussi souvent dans ce genre de... Oui. Deux sujets. Dans les autres questions que je voulais voir avec toi, on voit qu'il y a des solutions potentielles sur la façon de faire vivre le débat qui sont assez importantes. L'autre question qu'on peut se poser, c'est sur les conséquences potentielles de cette crise à minima d'un point de vue démocratique. On le redit, abstention record, ce vote barrage qui fait que ce n'est pas forcément un vote de conviction pour dire les choses, c'est plus un vote d'opposition à un autre candidat. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur le long terme? Tu parlais de la crise des gilets jaunes qu'on a eue lors du premier quinquennat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui peut arriver en fait en termes de contestation?
Il y a deux types de conséquences qu'il peut y avoir. Soit ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas eu le choix d'exprimer leur désaccord dans les urnes parce qu'en fait, on revient avec la crise du début et au fait que les choix sont insatisfaisants. Et là, ça peut créer de la violence dans la rue ou de la contestation dans la rue. Et on a vu tout à fait la crise des gilets jaunes. Elle pourrait très bien renaître sous une autre forme et plusieurs fois pendant le quinquennat. Et je pense que du côté d'Emmanuel Macron, ils en sont très conscients. Il n'a pas, c'est pas une, même si bien entendu c'est une élection légitime, ce n'est pas une élection qui a apaisé la colère des Français qui étaient en colère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'à force de jouer avec le feu arrive. Donc, à chaque fois, on dit ah, c'est un séisme, le Rassemblement national n'a jamais été aussi près du pouvoir, etc. Puis on a l'impression que le lendemain, hop, on passe à autre chose. Puis on a l'impression que ça va se réparer tout seul. Ça ne se réparera pas tout seul.
Et ce sujet précis, il n'y a pas de stabilité. Il y a au fil des années, sur les 3 dernières fois où Marine Le Pen a été au second tour, ça a augmenté à chaque fois.
Et Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre. Et si vous voulez, ce qui est un peu différent en France, je trouve, par exemple, on a cité tout à l'heure les États-Unis ou la Grande-Bretagne, c'est que quelque part, Trump, même si on sait ce que ça a été, etc., c'était le candidat des Républicains, c'est-à-dire d'un des deux grands partis de la démocratie américaine, ce qui fait que vous aviez derrière toute une administration, tout un savoir-faire, tout un personnel politique qui fait que même avec la personnalité quand même problématique du président, vous aviez quelque chose qui restait dans un sentier un peu de la démocratie traditionnelle. Même chose en Grande-Bretagne avec Boris Johnson, qui est franchement un membre de l'élite, le leader du parti conservateur britannique. Pareil, un des deux grands partis démocratiques de la Grande-Bretagne. Ouais. Nous, le problème, c'est que c'est nos partis traditionnels qui n'arrivent pas à prendre en compte et à être les émissaires, parfois, de cette colère qui s'est exprimée chez d'autres, dans d'autres pays. Donc, quelque part, chez nous, c'est plus aventureux et peut-être plus problématique pour la suite.
Merci beaucoup, déjà, Anne, pour d'avoir été présente. Ça passe forcément très, 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 très vite. J'avais plein d'autres questions. On voit que c'est un sujet, par ailleurs, qui est très large et qui est bien, bien complexe. Ça pose des questions plus larges sur le fonctionnement de notre démocratie aujourd'hui, au-delà de l'élection présidentielle en tant que telle. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités, qu'ils soient sportives, journalistes ou encore artistes. Eh bien, vous pouvez taper Mashup, l'interview, directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.